Bonjour. Même si ça n'est pas totalement certain, il est au moins probable que vous ayez déjà entendu la prédication de ce matin. Alors on ne peut pas se souvenir de tous les thèmes qui dimanche après dimanche sont développés. Enfin, je vous avertis, ne vous étonnez pas si vous connaissez le sujet, si vous reconnaissez des images ou si vous reconnaissez des développements que vous avez déjà entendus. En effet, j'ai eu à cœur de revenir, de revisiter, de retravailler cette méditation pour vous en représenter ce matin la nouvelle mouture. Alors, on ne revient pas à quelque chose qui a été donné sans avoir quelques scrupules, mais aussi avec cette conviction que c'est une bonne chose de revenir à certaines questions importantes, essentielles, et au fond, à l'idée que, quoi qu'il soit dit ou répété ce matin, chacune et chacun, il ne faut pas en douter, y trouvera quelques bons grains à moudre. Alors le principe consiste à mettre en vis-à-vis, en face à face, deux textes de la parole de Dieu. Ces deux textes sont bien connus puisqu'ils font partie de la base de notre culture biblique. Dans un premier temps, la multiplication des pains. Dans un deuxième temps, la mise en place de la Sainte Cène par le Seigneur Jésus. Ils sont l'un comme l'autre d'une très grande richesse, mais vous allez le voir, c'est sous un angle très particulier, très précis, que nous allons les considérer ce matin, et nous allons commencer par les lire. Alors, le premier se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, à partir du verset 30. Avant cet épisode, Jésus avait envoyé ses disciples dans toute la région pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà ce qu'on lit au verset 30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent. S'en allaient et les reconnurent de toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande, « Combien de pain avez-vous ? Allez voir !» Après s'être informés, ils répondent 5 et 2 poissons. Alors, il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction, puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour que eux les distribue. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Et puis, un petit passage beaucoup plus court, celui-ci dans l'évangile de Matthieu 26. Matthieu 26, 26. La scène, donc. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Voilà pour notre lecture. Savez-vous comment on monte un opéra ? La préparation des représentations d'un opéra suit presque toujours un déroulement régulier, ou en tout cas presque immuable. Le premier jour, tout premier jour, ce sont les solistes qui arrivent en premier, avec rôle su, c'est inscrit sur le contrat, et ils se retrouvent en studio avec un ou une pianiste, et surtout la présence du chef d'orchestre. Et là va commencer un travail de bénédictin, c'est-à-dire que le chef d'orchestre va au microscope travailler tous les détails musicaux de la partition. Et on va prendre tout le temps nécessaire pour faire une lecture complète de l'ouvrage à monter. Lorsque ce premier travail est fait, le chef d'orchestre s'en va pour quelques jours et c'est le metteur en scène qui arrive. Avec lui va s'élaborer évidemment la mise en espace, mais surtout, une approche pointue de la psychologie et de l'évolution des personnages qu'il va falloir interpréter. Quelques jours plus tard, viendront les répétitions en costume, avec tous les accessoires qu'il faudra utiliser pendant que l'on chante. Il faut s'habituer à chanter avec une épée, une cuirasse, un bouquet de fleurs, un message, enfin, on répète avec les accessoires. Après encore, viendra l'orchestre, avec tous les instrumentistes. Plus tard, ce sont les choristes et les figurants qui viendront grossir les rangs. Et là, on est vraiment dans un travail très collectif. Mais le spectacle n'est pas abouti tant que l'on n'a pas franchi l'ultime étape, celle que l'on réserve toujours pour la fin. Et cette dernière étape, c'est la mise au point des éclairages. On met toujours la dernière touche en réglant les éclairages. Car les éclairages changent tout. Certaines scènes peuvent se dérouler à l'aube, en plein soleil ou le soir. Cela peut se passer dans une scène extérieure ou à l'intérieur. Tel éclairage éclatant va plutôt se prêter à une scène de triomphe ou de victoire. Tel autre moins direct à des moments intimes comme ceux de la confidence ou des secrets. En fait, tout se passe comme si l'éclairage était un commentateur muet mais indécelable qui influe, qui oriente la lecture que l'on va avoir de ce à quoi on assiste. L'éclairage ajoute ou retranche, et dans tous les cas de figure, il donne du sens. C'est très précisément par le biais de l'éclairage que nous allons revenir à nos deux lectures. La première, multiplication des pains. Cet épisode a été narré par les quatre évangélistes. Or, chacun, avec ses mots, d'une manière ou d'une autre, souligne qu'il était tard. Matthieu 14, verset 30, le soir venu. Marc 6, 35, nous l'avons lu, l'heure était déjà tardive. Luc 9, verset 12, le jour commençait à baisser. Et Jean, au chapitre 6, nous dit qu'après cela, les ténèbres étaient déjà là. Or, songez qu'au soir venu, qu'à l'heure où le jour commençait à baisser, tout restait à faire. Matthieu lui aussi donne le chiffre de 5000 hommes. Vous savez qu'on ne comptabilisait que les hommes. Imaginons qu'on soit dans une approximative parité et qu'il y ait des enfants. Sans dire trop de bêtises, on est aux alentours de 10-12 000 personnes. Marc 6, verset 39, nous l'avons lu aussi. Jésus ordonna aux disciples de les installer. Ils les installèrent par rangées de 100 et par rangées de 50. Et ce n'est qu'après cette très longue mise en place que va commencer la multiplication proprement dite. Jésus rend les pains et les donne à ses disciples pour qu'ils, eux, en assurent la distribution. Eh bien, tout cela a dû prendre un temps infini. De telle sorte que si nous appréhendons ce moment du point de vue de l'éclairage, nous sommes ici en présence d'un épisode crépusculaire, sinon nocturne. Bon, vous allez dire, mais au fond, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans la mesure où toute cette multitude affamée a pu recevoir du Christ une nourriture suffisante? Eh bien, mes chers amis, cela change fondamentalement au moins un point. Et ce point, c'est que ce Christ qui multiplie sans parler, eh bien, du coup, on ne le voit pas. Tout au plus, le distingue-t-on de loin dans une nuit qui tombe. Faisons trois remarques. Nous l'avons dit, Jésus ne donne pas directement le pain. Il le rompt et le donne à ses disciples. Il ne va pas vers la foule. Deuxième point. Tout cela se déroule dans le plus parfait anonymat. En effet, quel que soit l'un des quatre narrateurs considérés, tous emploient le mot de foule. Et curieusement, soit la foule, soit les foules, indistinctement au singulier ou au pluriel. Or, une foule, ça n'est pas fait de clones, ça n'est pas fait de personnes formatées, mais au contraire, c'est un ensemble humain bigarré, riche de contrastes. Là, nous imaginons que ce qu'on côtoie pêle-mêle, nous l'avons dit, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des patrons, des ouvriers, des gens en bonne santé, des gens malades, des gens avides de comprendre, de savoir, d'autres qui sont là, de simples curieux, qui sont venus bon, pour voir. Et vous pouvez ajouter et étirer la liste ad libitum. Une foule est faite de personnes, de profils, de toute nature, neutre ou contrasté. Eh bien, et le texte nous l'a dit, à tous, sans exception, Jésus offre une nourriture abondante. Quoique non choisis, ils sont venus de leur propre fait. Tous sont acceptés. À aucun moment, nous ne voyons le Seigneur dire, vous distribuez à tout le monde, excepté à telle catégorie. Non ? Il est donc à la portée de chacune et de chacun, quel qu'il soit, sans distinction d'avoir accès à la nourriture qu'offre Jésus. Mais, s'il est vrai que tous sont acceptés, tous aussi se comportent comme de simples consommateurs, comme de simples consommateurs. Des consommateurs anonymes qui, une fois arrivés à satiété, se disperseront ensuite dans la nuit. Ils se dilueront, ils se fondront pour retourner chacun chez soi. Une fois la consommation terminée, chacun s'en retournera à la nuit de son quotidien. Une dernière question avant d'en arriver à notre second récit. Avez-vous remarqué que malgré l'extraordinaire densité de cette histoire, il y manque quelque chose de vital qui n'est mentionné par aucun des quatre évangélistes. Tâchons de résumer pour y voir plus clair. Nous avons dit que la journée durant, cette foule est restée exposée au soleil et que le soir venu, Jésus leur distribue une nourriture abondante qui fait du bien, soit. Mais là, quelque chose fait défaut. Que manque-t-il? Mais bien sûr, l'eau. Rien, absolument rien ne leur a été proposé à boire. Alors comment ont-ils fait? Eh bien, la réponse est floue, mais évidente. Chacun s'est désaltéré par ses propres moyens. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 13, s'adressant à la Samaritaine qui tire l'eau du puits, Jésus dit « Quiconque boira encore de cette eau aura encore soif. » Quiconque boira de cette eau aura encore soif. La deuxième scène, la sainte scène. Au départ, vous vous souvenez, nous avons dit, notre propos va être de mettre en vis-à-vis, en face à face, ces deux textes pour essayer de nous poser des questions importantes et aussi de voir quelle différence il peut exister entre ces deux textes. Les points communs. Ici, la scène est crépusculaire aussi, sinon nocturne. Ici, les personnages principaux sont les mêmes, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. Et c'est là que commencent les différences. Dans le récit de la scène, nous ne sommes plus dans un vaste espace extérieur, dans un espace ouvert. Là, nous sommes dans un lieu clos. Il s'agit d'une scène d'intimité. Tous sont réunis autour de Jésus et au bénéfice de l'éclairage constant d'une lampe. Ici, pas de foule, mais quelques intimes. Pas d'anonymat. Jésus connaît personnellement chacun. Pas de groupe de paquets humains en rangée de 100 ou de 50. Non, non, non. Ici, ce ne sont que des unités, des individus, un par un. Ici, la pièce est bien éclairée. Référez-vous à la métaphore de Jésus avec la lampe et le boisseau. Il dit « la lampe éclaire toute la maison ». Les distances qui, dans le premier récit, séparaient la foule du maître sont à présent abolies. Jésus est là, à portée de la main. On ne le devine pas vaguement dans un lointain brumeux ou dans l'obscurité du soir qui tombe, non. On le voit distinctement et de près. Quant à lui, eh bien, il peut regarder chacun droit dans les yeux. Ici, pas d'intermédiaire, c'est Jésus lui-même qui distribue non seulement le pain, mais aussi la coupe à boire. Ici, pendant le repas, Jésus n'est pas muet, il s'adresse à ses disciples, il a des choses à leur dire. Ici, enfin, apparaît entre nos deux histoires une différence fondamentale, très importante, qui n'a été qu'assez rarement souligné. Tous les commentateurs de la multiplication des pains, nous l'avons dit, insistent sur le fait que Jésus délègue. Il multiplie, mais il délègue pour que les disciples assurent la distribution. Lui ne se contentant, si l'on ose dire, que de pourvoir en abondance. En résumé, dans la multiplication, Christ muet multiplie, mais ne distribue pas, il délègue. En revanche, toujours dans ce premier récit, Jésus ne déléguera pas pour se charger personnellement de quelque chose. Il ne laissera à personne le soin de faire ce quelque chose à sa place. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus, qui n'a jamais demandé à cette foule de le suivre, la renvoie. Matthieu 14, verset 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il est très étonnant, voilà très étonnamment, l'incroyable sort réservé aux simples consommateurs. Et là, on a comme un écho, vous savez, ce passage de Matthieu 7. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Au tout début de notre méditation, nous avons dit que nous nous poserions des questions importantes, une ou deux questions importantes, et c'est par ces questions que nous abordons notre troisième et dernier développement. La question est, et moi, où en suis-je ? Consommateur ou disciple ? Disciple ou simple consommateur ? Suis-je dans un éclairage crépusculaire ou sous la lumière constante d'une lampe? Suis-je un élément anonyme dans une foule que Christ lui-même renvoie de son quotidien? Ou alors suis-je une identité singulière et précieuse installée autour de la table que préside mon maître? Prenons quelques exemples pour nous demander ce que l'on peut entendre, même si ce n'est pas exhaustif, mais ce que l'on peut entendre par consommateur et par disciple. Si nous sommes dans la simple consommation, cela signifie que nous avons du Christ une vision floue, une vision imprécise. Nous croyons qu'il est là, nous le devinons, mais en réalité, nous restons éloignés de sa personne. Même si nous nous sommes déplacés pour venir à lui, nous sommes là, installés en rang, en attendant sagement que quelqu'un nous distribue la béquée. Qu'apparaisse un problème, une inquiétude, une angoisse, une contrariété, aussitôt nous crions « Seigneur, Seigneur !» Sauf que, dès que nous avons reçu l'indispensable nourriture, dès que nous ressentons les premiers effets de la satiété, rapidement, tout ce qui touche à la personne de Christ sera dilué dans le déroulement de notre quotidien. Être consommateur, c'est avoir tendance à réduire l'action de Christ, son amour, ses grâces, à ses simples vertus de multiplicateur. Comment s'étonner alors que notre éclairage soit à ce point crépusculaire? Au fond, je ne suis qu'un égoïste lambda, noyé dans une ou des foules d'égoïstes lambda, chacun n'étant préoccupé que de sa propre faim et de son propre ventre spirituel. Que dans ce contexte survienne la soif, et nous voilà aussitôt réduits à essayer de l'étancher avec notre ordinaire, avec notre quotidien. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, dit le Seigneur. Alors arrivé à ce stade, il me semble entendre, mais qu'est-ce qu'il est plombant ce mec? Non mais ça devient lourd quoi, parce que là on se vautre dans le catastrophisme quand même. Mais non. Et pourquoi mais non? Eh bien les gars, parce qu'il nous reste une dernière cartouche. Et c'est quoi cette dernière cartouche? Ben la première question c'était qu'est-ce qu'un consommateur? Ben notre cartouche c'est qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est d'abord celui qui est dans l'éclairage direct de la lampe. La vision qu'il a du Christ s'inscrit dans la proximité. Si je suis disciple, les oreilles de ma foi reçoivent directement sa parole. Si je suis disciple, les yeux de ma foi rencontrent son regard. Si je suis disciple, ma foi se nourrit directement de son pain et s'abreuve directement à sa coupe. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et plus loin, il ajoute, « Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. » Si je suis disciple, cela signifie que je suis assis à la même table que le maître et qu'il m'appelle par mon nom. Être disciple, ce n'est être jamais renvoyé, mais au contraire, réunis, rassemblés par lui autour de sa personne. Allez, un petit bémol, un mais, point de suspension. Lorsque Jésus a renvoyé les consommateurs anonymes, vous avez bien noté qu'il ne leur a absolument rien demandé. Il n'a rien exigé. Eh bien, il n'en va pas de même avec les disciples. De ces derniers, il attend un engagement. Il les charge d'une mission, et cette mission, c'est le partage. Le partage dans le sens où un disciple a pour devoir d'aller porter la nourriture à l'autre. Un disciple ne reste pas sagement assis en rang de 5, 10 ou 50. Non. Être disciple, c'est être désigné comme porteuse ou comme porteur de panier. C'est revenir à Christ pour qu'il remplisse un panier de nourriture destiné à l'autre, pour le prochain. Être disciple, ce n'est pas être en état d'alerte au moindre gargouille de son propre ventre, non. Être disciple, c'est être dans l'urgence de la distribution parce que le monde crève de faim. Un dernier regard sur les protagonistes de la multiplication relatée par Marc l'évangéliste. Nous l'avions dit juste avant la lecture, les versets qui précèdent nous disent que les disciples venaient de passer une journée harassante. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Eh bien, c'est dans ce contexte de fatigue et d'épuisement que le maître va leur demander de distribuer de la nourriture à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Après quoi, ces mêmes malheureux serviteurs devront encore s'épuiser à ramer contre les vents contraires de la tempête. Eh oui, il arrive qu'un disciple s'arrame. Pauvre disciple. Pauvre et pitoyable disciple. Où sont la récompense, l'encouragement et le repos dans le service du Seigneur? À quoi bon s'esquinter pour si peu de reconnaissance? Ne serait-il pas préférable de s'installer confortablement sur l'herbe pour un bon moment de pique-nique? Alors, disciple ou consommateur? Simple consommateur ou disciple? À celles et ceux qui ont choisi de se lever pour devenir des serviteurs et des servantes, des porteuses et des porteurs de paniers, à eux seuls, une promesse est faite qui ne concernera jamais les consommateurs passifs. Nous avons longuement insisté sur la notion d'éclairage. Eh bien, conservons-la pour donner un titre à notre conclusion. Et le titre, c'est « Un éclairage du troisième type ». Il y aura, pour les disciples serviteurs, une lumière qui ne sera réduite ni au rayonnement solaire, ni à l'approvisionnement en huile de la lampe. Et cette promesse est mentionnée à la fois dans le Nouveau et à la fois dans l'Ancien Testament. Apocalypse chapitre 21, la nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. Et pour terminer, Ésaïe chapitre 60, au verset 20. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, car c'est le Seigneur qui sera ta lumière, ton éclairage, pour toujours. Amen. Nous allons